Heureux de vous retrouver pour notre première édition de la FAQ, l'émission qui traite de la vie affective chez les jeunes de 11 à 25 ans. Autour de la table, je reçois Pascal et Aymeric du Planning Familial. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je suis également en compagnie de Théo, Floriane et Gaël, tous les trois membres adhérents du Centre socio-culturel La Passerelle. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Comme dit précédemment, l'émission d'aujourd'hui traitera de l'homosexualité. Pour commencer cette émission, nous allons tout de même vous en expliquer le principe et comment elle est née. Théo, tu fais partie des membres fondateurs de la FAQ. Peux-tu nous expliquer comment est née l'émission ?
Bien sûr. Tout commença pendant qu'on mangeait un chicken carnet en été 2020. On parlait, on se disait, le sexe, au final, on parlait vachement de ça. À la base, le sexe reste très tabou dans notre société et que les jeunes ne sont pas forcément accompagnés dans ce genre de sujet. Alors, même si on en parle en SVT, mais dans un but très anatomique de la chose, on parle pas de... On sait comment ça fonctionne, mais on t'apprend pas comment on l'utilise, en fait, entre guillemets. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une émission de radio là-dessus. Et puis, alors à la base, l'émission devait juste être le concept d'une de nos chroniques appelée l'instant T, où il y a un principe de questions-réponses avec le planning familial. Et au fur et à mesure des discussions avec Radioactive, et puis entre nous, on s'est dit, ça a évolué et c'est devenu ce que vous allez écouter et ce que nous sommes sur le point de produire.
Ok. Effectivement, on s'était dit que la question de la vie affective était un petit peu... En fait, autant on peut parler de sexualité au collège et au lycée. Comme tu dis, on est d'un côté très anatomique, mais les questions, elles traitent beaucoup de la relation homme-femme, comment je fais, les premières fois, toutes ces choses-là. En tout cas, moi, je peux parler pour mon expérience en tant que responsable jeunesse du Centre socio-culturel La Passerelle. Ça m'arrive très régulièrement de parler de ces questions-là avec des ados. Et pour eux, c'est compliqué parce que forcément, ils cherchent des réponses. Ils le cherchent auprès de leur père, pas forcément auprès de leurs parents. Certains viennent chercher ça auprès des animateurs. Donc on s'est dit, pourquoi pas, en fait, traiter de ça. Et on en est là. Du coup, on va également préciser ce qu'on entend par vie affective pour redéfinir un petit peu le terme. Pour ça, je vais laisser la parole à Pascal et Aymeric. Qu'est-ce qu'on entend par vie affective ? Et à la suite de ça, vous pourrez nous préciser quel sera le rôle du planning pendant l'émission.
Alors, quand on parle de vie affective, c'est un sujet qui est large. On associe très souvent vie affective et santé sexuelle. Alors, effectivement, la sexualité est en lien avec la vie affective, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle d'affect, on parle d'émotions, de sensations, soit avec soi-même, soit avec les autres. Donc, ça veut dire que quand on parle de vie affective, on va parler de la relation à soi, à son corps, aux autres, au corps des autres. C'est très, très large. Ça englobe énormément de choses. Donc, effectivement, tu l'as dit, il y a les relations femmes-hommes, filles-garçons, mais il y a aussi l'anatomie, les fonctionnements et dysfonctionnements du corps, le consentement, le plaisir, la connaissance de soi, le respect, l'estime de soi. Voilà, c'est extrêmement large comme sujet. Et donc, nous, au Planning Familial, ça fait partie de nos grandes thématiques sur lesquelles on travaille. On fait beaucoup de prévention autour de ce sujet. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir compléter, donner des apports, des informations et amener aussi notre approche, puisqu'on a une approche d'éducation populaire et donc on essaye de transmettre les messages de la manière la plus audible possible pour tout le monde.
Merci. Alors, ceci étant dit, je vous propose de passer au sujet de l'émission. Donc, pour juste remettre un élément de contexte, on s'est rencontré avec le groupe de jeunes et on s'est donné la liste de tout ce dont on pouvait aborder. Et donc, le choix de la première émission a porté sur l'homosexualité. Nous avons donc récupéré un témoignage auprès d'un de vos proches. Merci à elle, si elle nous écoute. Et le témoignage que je vais vous lire et à partir de là, nous traiterons de différentes questions. Alors, la personne interviewée est une jeune fille de 17 ans, scolarisée au lycée à Tours. Elle souhaite rester anonyme. C'est à l'âge de 14 ans qu'elle commence à avoir des doutes sur sa sexualité. Une de ses amies fait une remarque qui la pousse à se poser des questions. Cette amie lui dit que si elle était un homme, elle serait homosexuelle, car elle aime trop les hommes. La jeune fille, en se mettant dans la peau d'un homme pendant quelques minutes, se rend compte qu'elle serait hétérosexuelle car elle aime les femmes. Mais étant au collège à cette époque, elle a du mal à s'accepter comme elle est. En effet, personne n'en parle là-bas, alors elle n'ose pas évoquer le sujet. En arrivant au lycée, elle se sent beaucoup plus à l'aise. Les gens sont plus à l'écoute et jugent moins. Certains revendiquent ouvertement faire partie de la communauté LGBT+, ce qui la met plus en confiance. De plus, elle connaît très peu de gens de son nouveau lycée, car ce n'est pas dans son secteur. Elle se sent plus libre. C'est donc à 15 ans qu'elle annonce aux personnes dont elle est la plus proche qu'elle est lesbienne. Elle estime avoir eu de la chance, car son coming out s'est relativement bien passé, malgré quelques remarques maladroites et parfois homophobes. Aujourd'hui, elle est plus à l'aise avec sa sexualité, notamment car elle a des amis homosexuels avec qui elle fait part de ses expériences. Cela ne l'empêche pas d'avoir des périodes durant lesquelles elle se remet en question ou bien culpabilise car elle n'est pas dans la norme. Entre guillemets. Elle m'explique aussi qu'elle a quand même peur du regard des autres, de tenir la main de sa copine dans la rue car l'homophobie, bien qu'elle ait diminué, est encore très présente. En effet, certaines personnes qu'elle connaît ont déjà reçu des remarques homophobes ou bien des coups, ce qui l'effraie. Pourtant, elle ne pense pas que sa sexualité est une faiblesse ou une force, mais seulement quelque chose de normal. Cependant, elle reconnaît qu'il est plus facile d'assumer son style, sa coupe de cheveux, ses vêtements, une fois qu'on a assumé notre sexualité. Enfin, elle conclut en m'expliquant qu'elle souhaite qu'on en parle plus aux enfants, contre l'indignation de certaines personnes qui les jugent trop jeunes. Elle rétorque qu'elle a bien vu des couples d'hommes et de femmes à la télévision et que cela ne l'a pas rendue hétérosexuelle pour autant. Pour elle, l'homosexualité, c'est avant tout de l'amour et qu'il faudrait la normaliser encore un peu plus. Elle voudrait par exemple une meilleure représentation de la communauté LGBT+ dans les médias, car elle estime que c'est encore trop stéréotypé. À la lecture de ce texte, on en a découlé plusieurs questions. D'abord, l'acceptation par soi-même et par les pairs, la difficulté de s'assumer au collège et la plus grande facilité une fois arrivé au lycée, l'importance aussi de savoir s'entourer, d'avoir dans son environnement proche des gens qui vous accompagnent et vous encouragent. Et enfin, elle parle de la représentation dans les médias. Du coup, je vais envie de vous poser une question. Elle fait un comparatif entre le collège et le lycée. Elle parle également de l'importance de ses fréquentations. Comment expliquez-vous, vous qui êtes jeune et encore au lycée ou plus très éloigné du collège, cette différence entre les deux, est-ce que, en quoi ce serait plus simple au lycée qu'au collège ?
En fait, c'est assez visible et assez évident, mais le collège, c'est une période très charnière où on passe d'un enfant à un préadolescent, donc quelqu'un qui commence vraiment à découvrir ce que c'est sa sexualité, qui commence vraiment à comprendre, à voir des nouvelles thématiques qui s'ouvrent à lui. Et c'est quelque chose de très particulier quand on en arrive à ce stade-là. Et c'est aussi un moment où il y a plein de choses qui se passent intérieurement, plein de questionnements et aussi plein de remarques, de moqueries, parce qu'on est, on est encore jeune. Et cette jeunesse, on n'est vraiment pas mature et c'est très dangereux. Ça fait peur en fait, ça fait vraiment peur d'essayer de s'assumer quand on est différent dans un endroit où justement personne ne veut être différent. Les jeunes ne sont pas prêts à vouloir avoir cette différence en fait presque.
Et moi j'ai envie de parler du passage au lycée. Alors je peux parler de mon expérience car je suis dans un lycée à Tours. Et j'étais avant au collège de Mont-Louis et j'ai réellement observé cette différence entre le collège et le lycée. Je pense que c'est plus facile de s'assumer au lycée pour plusieurs raisons. La première étant qu'on connaît moins de monde. En tout cas, quand on écoute le témoignage de la jeune fille, on se rend compte que c'est le cas. Elle connaît peu de monde et donc elle a moins ce sentiment d'avoir grandi avec ces personnes-là. Et donc elle arrive dans un environnement qui est tout nouveau et dans lequel elle peut vraiment réussir à s'exprimer sans avoir la peur et le jugement de ceux avec qui elle a grandi, qui pourraient se moquer d'elle, etc. Et c'est vrai que je trouve aussi que le lycée, en général, on a une plus grande diversité. Au niveau aussi du style vestimentaire, mais aussi de la personnalité des gens. Quand on est dans un collège où on est 600 et qu'on passe dans un lycée, on est 1200, 2000, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de monde et c'est plus facile de trouver son compte et donc d'arriver à s'accepter avec des gens qui sont assez proches de ce qu'on veut, quoi.
Après, j'aimerais aussi un peu nuancer la chose. Certes, c'est plus simple d'accepter cette situation au lycée, mais après, il restera toujours des abrutis, excusez-moi le terme, pour critiquer. Par exemple, moi, dans mon lycée, je suis pas à Tours. Dans mon lycée, à un moment, il y a eu un couple lesbienne qui s'est formé. Et quand t'entends des gens dans ta classe te dire « Ah ouais, non, mais je suis pas homophobe, mais avoue, quand même, c'est bizarre. » Bah non, c'est pas bizarre. Finalement, Le lycée, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est plus facile de s'accepter au lycée qu'au collège. Mais il faut quand même nuancer la chose et savoir, comme elle disait, savoir s'entourer des personnes saines vis-à-vis de ce sujet-là.
Ok, c'est vrai que donc à vous entendre, effectivement, il y a plus de facilité parce qu'on est tout de même, on est plus nombreux et puis en fait, il y a comme plus de diversité, en fait, on arrive plus facilement à s'assumer parce que même peut-être potentiellement, c'est ce qu'elle dit, elle peut rencontrer des gens qui sont comme elle et qui peuvent l'y aider. Du coup, j'ai envie de vous donner la parole à vous deux, Pascal et Aymeric, au planning familial, par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, que vous retrouvez et est-ce que ce sont des sujets pour lesquels on vient vous voir? Et si c'est le cas, comment vous accompagner les jeunes personnes qui viennent pour vous poser ce genre de questions?
Alors, effectivement, c'est des sujets un peu universels. Je me permets d'élargir un tout petit peu au-delà de l'homosexualité. La période de la puberté du collège et du lycée est une période charnière pour les jeunes de manière générale. D'autant plus quand on a des caractéristiques qui ne correspondent pas à la norme, comme le fait d'être homosexuel. Il y a d'autant plus de questionnements, de difficultés à s'accepter ou à se faire accepter. Ça, c'est clair et net. Et donc, nous, on reçoit beaucoup de jeunes, garçons, filles et autres, qui viennent nous voir pour avoir des conseils et de l'accompagnement sur ces sujets. À la fois pour pouvoir poser des mots, déjà quels mots correspondent à ce que je ressens vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Donc est-ce que je suis homosexuel, bisexuel, pansexuel, hétérosexuel ou encore autre chose. J'espère que je ne fais pas peur en disant tous ces mots, mais il y a tout un éventail de possibilités aussi. Je pense que c'est important de ne pas rester dans une binarité hétéro-homosexuelle. Et donc pour nous, l'objectif, c'est donc à la fois de pouvoir les aider à poser ces mots-là, de s'accepter soi, de leur permettre de s'accepter eux-mêmes, dans le sens où, comme vous le disiez très bien, Théo et Floriane, il y a une norme qui est omniprésente de l'hétérosexualité, même si au lycée, ça devient plus facile parce qu'il y a plus de diversité, parce qu'il y a plus d'acceptation, on commence à sortir un peu de la puberté. Il y a toujours de l'homophobie, en fait, elle est présente dans notre société, elle est partout, tout le temps. Et elle est présente tout au long de la vie, hein, pas que au collège et au lycée, malheureusement. Et du coup, on sait que pour des personnes qui sont hors normes, comme les personnes homosexuelles, ce sera quelque chose qui sera toujours là. Et donc, c'est comment se protéger de ça, se protéger des paroles des autres, se protéger de leur opinion, de leur vision des choses, de leur vision négative de nous-mêmes, pour arriver à avancer. Ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais qui se fait beaucoup aussi dans l'éducation, dès la petite enfance, hein, apprendre le respect de l'un et de l'autre, apprendre le respect de nos différences. Ça commence dès tout petit, ça doit vraiment se faire avant le collège, et c'est comme ça, je pense, qu'on peut arriver à quelque chose d'un peu plus serein par la suite. Voilà.
Merci. Du coup, moi, ce que j'en retiens, en fait, c'est à la fois le regard des autres qui peut amener à un repli sur soi, quand, en fait, c'est aussi le regard des autres et l'accompagnement de ses pairs dans la bienveillance et dans l'acceptation qui peut amener, en fait, à se faire confiance et à se dire « oui, en fait, je suis comme ça ». Ça ne fait pas de différence pour mes amis, donc bah, au final, allons-y, quoi. Donc c'est cette tolérance-là et ce regard des autres qui peut, en fait, au lycée et au collège, peut aider les personnes à s'accepter. Je pense qu'on est parti, il me semble, hein, vers quelque chose, comme tu disais, ça sera omniprésent, mais il me semble quand même qu'il y a du mieux. Est-ce que vous, avec votre regard d'étudiant et lycéen, vous pensez qu'on tente vers du mieux ?
Alors pour moi, oui. En tout cas, si on parle du fait qu'il y a plus d'acceptation, plus de tolérance, et c'est ça le sujet, alors oui. Dans mon lycée, alors bien sûr, les gens ne vont pas se revendiquer homophobes, bien sûr, parce que c'est pas très bien vu non plus. Mais j'ai certains amis qui ne sont pas hétérosexuels, qui le revendiquent. Et bien sûr, ça suscite des remarques, mais en général, ils passent au-dessus et puis ils arrivent à s'accepter tels qu'ils sont et ils ont de la chance parce qu'ils sont bien entourés. Donc je pense qu'on arrive dans une société où l'acceptation des autres, elle avance. C'est sûr que quand on reprend 60 ans en arrière, on avait un peu plus de mal à dire « je suis homosexuel » parce que c'était beaucoup moins vu, enfin beaucoup moins, je veux dire, moins bien vu que maintenant.
Je pense qu'il faut voir que notre société, en général, a été bâtie sur une norme de l'homosexualité et presque une peur de l'homophobie, voire vraiment, ça fait très longtemps, depuis très très longtemps, que l'homophobie est très mal vue, que tous les gens qui sont Oui, l'homosexualité. L'homosexualité est vraiment très mal vue. Il y a des gens qui se sont fait lapider pour essayer d'aimer qui ils voulaient. Donc on est forcément sur du mieux. En fait, je pense qu'on peut être que sur du mieux dans l'évolution des choses. Tellement on avait fait dans le pire avant. C'est quelque chose qui me semble évident. Donc là, le monde s'ouvre de plus en plus. Et vraiment, ça qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une période où on s'ouvre et où on peut commencer de plus en plus à se revendiquer comme on est.
Et puis, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on est jeunes, on a 17 ans, 18 ans, voilà. Donc, on a ce regard de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus normal, plutôt normal. C'est assez revendiqué dans les médias, autour de nous, etc. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui étaient vivants, j'allais dire, il y a 40 ans, mais voilà. Eux, ils vont forcément poser un autre regard sur les choses. Ils ont vu la société évoluer au niveau des mœurs, mais aussi au niveau des lois. Et ils voient, eux, que ça a changé et qu'on va vers plus d'acceptation et voilà, plus de tolérance.
Ah, j'aime bien, en fait, le témoignage de cette jeune fille. En fait, c'est qu'elle dit à un moment, en fait, et ça, nos camarades pourront nous en parler. Elle dit, mais c'est avant tout de l'amour, en fait. Et tout de suite, quand on va parler d'homosexualité, on va faire un parallèle tout de suite qui va être basé sur la sexualité. Alors qu'en fait, il s'agit juste de deux personnes qui s'aiment. Et je trouve ça très important, en fait, d'avoir à le rappeler, parce que ce qui apparaît dans la tête des personnes qui vont avoir envie de juger ou de se montrer hostile, c'est pas ça. Est-ce que, par exemple, vous voyez, vous, un changement entre le planning familial, l'accompagnement du planning familial d'il y a 10 ans face à ces personnes-là, et aujourd'hui, est-ce que les gens viennent vous voir plus facilement? Est-ce que vous prenez moins de temps à les y aider? Enfin, est-ce qu'il y a un changement?
Alors, bon, malheureusement, ça fait pas encore 10 ans qu'on est au planning familial, mais on peut comparer sur quelques années quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus, effectivement, de demandes ouvertes sur ce sujet-là. C'est beaucoup moins tabou, et notamment quand on fait des séances collectives, le sujet LGBT+, de manière générale, est de plus en plus demandé directement par le public. On l'a toujours, nous, amené, mais il y a vraiment une ouverture d'esprit là-dessus que je trouve effectivement très rassurante. Et je reviens sur ce que vous disiez au niveau historique, effectivement, ça fait à peine une trentaine d'années que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies par l'Organisme mondial de la santé. C'est quand même très récent. Alors, on a beaucoup avancé. Il y a encore de l'homophobie, il y a encore des agressions homophobes, il y a encore des personnes qui se font, des jeunes de votre âge qui sont virés de chez leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Mais effectivement, il y a quand même des belles avancées là-dessus. On voit par exemple pour le don du sang, où pendant très longtemps, les personnes homosexuelles n'avaient pas le droit de donner leur sang. Alors aujourd'hui, c'est avec des conditions qui restent particulières, mais il y a des avancées quand même. On peut valoriser ça. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, Damien, sur le fait que c'était avant tout de l'amour. C'est vraiment important. Quand on parle d'homosexualité ou d'hétérosexualité, ce mot « sexualité » dedans donne l'impression qu'on parle de cul. Sauf que dans les relations, on est bien dans une émission qui parle de vie affective, on parle de relations, donc des relations qui peuvent impliquer de la sexualité, mais pas que. Avant tout, il y a des questions d'affect. Et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi vivre les choses différemment entre son attirance sexuelle et son attirance amoureuse. Il y a des personnes qui sont homosexuelles, c'est-à-dire qui sont attirées sexuellement par les personnes du même genre, mais qui vont être, par exemple, biromantiques, qui peuvent être attirées amoureusement par les hommes et par les femmes. Voilà. Et très vite, on rentre dans une binarité là-dedans. C'est pour ça que j'ai essayé de le déconstruire un peu tout à l'heure avec les différentes orientations sexuelles. Parce qu'on peut rapidement se perdre dans quelque chose de noir-blanc 1 ou 2, 0 ou 1 en général on dit d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et du coup cet éventail des possibles, il peut faire peur quand on a l'habitude de la norme, mais qu'on parle bien quand même de relations amoureuses, de relations qui sont censées faire du bien. Et du coup le jugement qui est posé dessus est dommage. Et du coup c'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer au planning familial avec différents outils, de différentes manières, avec plein de gens. Tout simplement cette idée d'acceptation. Et puis aussi de rappeler que l'homophobie, aujourd'hui, elle est condamnée par la loi, en fait. Ce n'est plus légal en France d'avoir des propos ou des actes discriminatoires envers des personnes homosexuelles. Et là, la loi étant de notre côté, je pense que c'est important de la rappeler pour le coup.
J'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que même si les choses avancent, et tant mieux, il y a encore des jeunes qui se font... parfois dégagées de chez eux à cause au moment où ils annoncent ça à leur famille, des personnes qui peuvent se sentir isolées. Est-ce qu'il y a une porte à laquelle frapper si on en se trouve dans cette situation ?
Alors oui, tout à fait. Alors en premier lieu, il y a le centre LGBTI de Touraine.
Dont je fais partie. du coup, je fais aussi, j'ai deux casquettes aujourd'hui. Donc effectivement, je fais partie du planning familial et aussi du centre LGBTI Touraine. Donc c'est une association qui existe depuis plusieurs années, 15 ans, et qui accueille sans condition toutes les personnes qui ont besoin, qui sont en questionnement, qui ont besoin sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, mais aussi les parents et tout l'entourage qui seraient confrontés à ces questions importantes.
Donc il y a évidemment aussi le planning familial qui peut être une bonne oreille pour tout ça. Mais c'est vrai que pour un accompagnement spécifique, c'est le travail du centre LGBTI Touraine. Il ne faut pas hésiter à les solliciter.
D'accord. Et est-ce qu'il existe des hébergements d'urgence dans le cas où un jeune se retrouverait à la rue
Alors, il y a des hébergements d'urgence pour les mineurs qui se retrouvent à la rue. Spécifiquement pour les mineurs qui se retrouvent à la rue à cause de leur orientation sexuelle ou de leur genre, non, il n'y en a pas sur le département. Il y a une association nationale qui s'appelle Le Refuge, qui essaye de s'implanter à Tours en ce moment, mais qui n'a pas encore ouvert d'hébergement, pour le coup, qui est spécialisée dans l'accueil des personnes, justement, des mineurs rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Mais voilà, il y a des hébergements d'urgence qui existent, mais qui ne sont pas spécifiques là-dessus.
D'accord. OK. Pour finir cette série de questions, cette personne, dans son témoignage, elle parle également de représentation dans les médias. Donc, est-ce que vous pensez que, encore une fois, on tend vers du mieux ? Moi qui ne suis pas très série ni film au goût du jour, est-ce que dans les séries et films, ce sont des personnes qui sont davantage représentées ?
En fait, c'est assez étrange, parce qu'effectivement, on en voit de plus en plus des représentations de ces personnes-là. Il y en a qui sont très bien faites et qui sont très agréables à regarder, autant qu'il y en a qui sont soit balbutiantes, soit qui sont faites comme des clichés. Et le problème avec les clichés, c'est que ça véhicule une image qui n'est vraiment pas le reflet de la réalité, et du coup, ça donne aussi une fausse image. De ces personnes homosexuelles ou de la communauté LGBT+, en général. Donc, on peut vraiment voir des fausses représentations de ce genre de personnes, ce qui est très désagréable aussi à regarder pour le spectateur, parce que t'as un peu l'impression d'être pris pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne peut pas par lui-même juger ou qui ne peut pas comprendre par lui-même, qu'il ne voit que des clichés.
Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que alors à l'heure d'aujourd'hui, on est sur une période où on voit beaucoup plus de séries qui tournent autour de ça et qui ne sont plus forcément basées que sur ces clichés. Comme par exemple, on en parlait l'autre fois, par exemple un homosexuel homme efféminé. C'était le cliché qui venait la plupart du temps lorsque un personnage était homosexuel. Aujourd'hui, ça va plus loin que ça. Et heureusement, on est sur des séries pour enfants qui abordent ce sujet, des publicités. On est sur beaucoup de choses qui aujourd'hui s'ouvrent à ce sujet-là. Et heureusement qu'on ne reste plus que sur nos clichés.
Ouais, les persos sont en général, moi, de ce que j'ai pu voir, même dans certains jeux vidéo, c'est pas forcément le cliché de l'homosexuel. Et c'est que, en fait, de temps en temps, ça va être nommé, ou de temps en temps, il va y avoir une romance entre deux hommes ou entre deux femmes dans une série, sans pour autant que ça vienne, l'histoire ne tourne autour de ça, comme ça peut être le cas avec des relations hétérosexuelles au cinéma ou dans les séries.
Et quand on en discutait, on se disait que la représentation qui est faite dans les médias, elle peut influencer la vision qu'on va avoir des personnes homosexuelles. Et cette vision qu'on va avoir va aussi influencer la représentation dans les médias. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à combattre, pas forcément en ayant plus de représentation, mais en ayant une représentation qui soit meilleure. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, une femme lesbienne, elle n'a pas toujours les cheveux courts ou les cheveux colorés ou quoi que ce soit. Autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont lesbiennes, beaucoup d'amis qui sont homosexuels. Elles n'ont pas toutes les cheveux très courts, etc. Enfin, c'est des représentations qu'on a pour faire vraiment un cliché, pour qu'on comprenne... au moment où on les voit, que c'est leur sexualité, mais ce n'est pas vraiment tout le temps le cas. Et justement, en changeant ces représentations, en mettant en place des femmes lesbiennes avec les cheveux longs, ça pourrait, nous aussi, changer notre vision des choses et montrer aux autres, à ceux qui regardent ces séries-là, qu'il ne faut pas se cantonner à une manière de penser, une manière de voir. Et donc, quand on aura cette vision qui sera complètement changée et changeante, et bah forcément, la représentation dans les médias, elle ne pourra qu'être meilleure et être beaucoup moins stéréotypée. Donc, quand j'en parlais avec la personne à qui j'ai fait ce témoignage, c'est l'idée qu'elle voulait vraiment véhiculer, c'est ça, c'est une représentation qui soit meilleure et moins stéréotypée, c'est aussi un pas vers le progrès, etc.
Ok. Merci. Non, mais je trouve ça important, effectivement, de préciser qu'il y avait à une époque, si on voulait faire comprendre que tel personnage était comme ça, on allait lui coller une coupe, une attitude, et puis histoire que ce soit très important tout de suite qu'on comprenne que lui, il était comme ça. Maintenant, ça fait partie intégrante des histoires. Et c'est un progrès, hein, effectivement. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. La première étant terminée, nous allons passer à l'instant T.
Et oui, merci Damien. Effectivement, c'est l'heure de l'instant T. Donc le principe de cette chronique, je le répète, nous avons récolté des questions de façon anonyme de la part de jeunes. Je vais dès à présent vous en poser deux. Nous en avons recueilli deux pour cette émission. Des questions d'ailleurs, je le précise, qui ne sont pas sur le thème de cette émission. Première question que je vais vous poser... Allons-y. Peut-on garder le même plaisir en faisant l'amour plusieurs fois tous les jours ?
Alors ça, c'est une excellente question, très importante. Alors, tout dépend de plein de choses. Ça dépend combien de fois et ça dépend de ce qu'on met derrière faire l'amour. C'est un terme qui est très, très large. Quand on parle de faire l'amour, ça peut impliquer des bisous, des caresses ou des choses plus intimes que je ne décrirai pas à la radio. Et du coup, selon les pratiques, selon comment on s'y prend, on peut faire varier des sensations. On peut prendre du plaisir plusieurs fois à deux, par exemple, dans la même journée ou tout seul, d'ailleurs. Ça, ce n'est pas un problème non plus. Mais ça va peut-être au bout d'un moment. Si on répète la même pratique beaucoup, on peut avoir une perte de sensations qui n'est pas à long terme. Ne nous inquiétons pas, c'est temporaire, il faut juste laisser le temps au corps de se reposer.
Et donc maintenant, la deuxième et la dernière question de cette chronique. Le rapport s'arrête-t-il lorsque le garçon a éjaculé ?
Alors, déjà, s'il n'y a pas de garçon, normalement, la question ne se pose pas. C'est important de reposer le contexte. Pardon. Donc, s'il y a une éjaculation de la part d'un garçon dans un rapport sexuel, est-ce que le rapport s'arrête ? Eh bien, pas forcément. Alors, il y a certaines choses qui vont s'arrêter parce qu'après une éjaculation, il y a une période qu'on appelle réfractaire, c'est-à-dire que le pénis retourne au repos. Donc, il n'y a plus d'érection pendant un certain moment. La durée peut varier selon les personnes et les contextes, mais il y a une petite durée quand même. Du coup, ça veut dire que pendant ce moment-là, on ne peut pas se servir du pénis comme on s'en servirait d'habitude. Comme je le disais, il y a plein d'autres pratiques qui existent, donc ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Ce n'est pas du tout un problème. Pareil, on est toujours à la radio, pardon. Je pense que j'ai répondu.
Oui. Alors, oui. En fait, je précise qu'en fait, ces questions-là, elles ont été choisies, elles sont pas anodines, en fait. C'est que de par mon expérience d'animation professionnelle au centre socioculturel avec des adolescents, quand on en vient à parler de rapports sexuels, eux s'imaginent quelque chose de très scripté, en fait, qui est... je pense que pour certains, ils prennent leur inspiration dans les films qu'ils voient sur Internet, donc ils sont eux-mêmes scriptés. Et ils s'imaginent qu'il faudrait qu'ils regardent la montre et qu'à partir d'un certain moment, il faut passer d'une pratique à une autre, puis d'une pratique à une autre, puis d'une pratique à une autre, et puis à partir du moment où le garçon a éjaculé, terminé, bonsoir, on s'arrête là. Et donc ces questions ne sont pas... elles ont été choisies en partie pour ces raisons-là. C'est parce que ces jeunes-là s'imaginent que... Pour ceux qui m'en ont parlé, qui ont partagé ça en fait au foyer, c'est... ils en oublieraient presque qu'ils sont deux, et qu'ils sont là pour passer... qu'ils sont deux et pour avoir du plaisir à deux, en fait, avec leur partenaire du moment. Et tellement ils ont la main sur la montre à se demander maintenant à partir de quand est-ce qu'il faut que je change quoi. Donc on leur explique que c'est pas comme ça que ça se passe, que avant tout c'est de l'amour et que si on est trop dans la performance ni dans la technique, eh ben on en oublierait presque que c'est encore une fois comme dans le témoignage que c'est de l'amour et que il s'agit de ça en fait.
Je me permets de compléter un petit peu. Si on parle d'un rapport sexuel entre un garçon et une fille, il peut aussi y avoir un rapport sexuel entier sans éjaculation, par exemple. Parce qu'effectivement, dans le script habituel, c'est bisous, préliminaire, pénétration, éjaculation. En gros, hein, c'est un peu le classique. Sauf qu'on peut faire dans plein d'autres ordres et plein d'autres choses. Il n'y a pas de souci avec ça. Et l'éjaculation, chez le garçon, chez l'homme, n'est pas forcément synonyme d'orgasme non plus. On a beaucoup cette vision-là. Et du coup, on peut avoir un rapport sexuel très agréable pour les deux, sans éjaculation, avec orgasme quand même. Ou... sans orgasme, avec éjaculation, ça peut arriver aussi, en fait. Mais ce qui compte, effectivement, c'est de partager un moment qui fait plaisir aux deux. C'est très important de le rappeler, t'as raison.
Merci pour toutes ces précisions. L'instant T touche maintenant à sa fin. Et je repasse la parole à Damien.
Merci Théo. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Je précise que c'est très important que le planning familial sera présent au centre socioculturel La Passerelle ce vendredi de 14h à 18h pour des permanences.
De 16h à 18h.
Ah, de 16h à 18h. C'est parce qu'on a envie que vous soyez là très longtemps. Donc de 16h à 18h pour des permanences. Donc si vous nous avez entendu, si cette émission a pu soulever des questions, elles seront là pour vous accueillir. Et eh bien merci de nous avoir écoutés pour cette première édition de la FAQ et à bientôt pour la deuxième édition.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était la FAQ des jeunes réalisée par Radioactive, le centre socioculturel de La Passerelle et le planning familial de Tours. La FAQ revient bientôt sur notre antenne pour un deuxième plateau.